Bonjour et bienvenue dans cette cinquième émission de Lire et Écrire à Studio Zef. Je vais commencer en vous parlant d'ateliers d'écriture. Puis, je vous présenterai une œuvre majeure du XXe siècle, Dune de Frank Herbert. Enfin, je vous donnerai une consigne d'écriture pour ceux qui veulent s'exercer chez eux. Comme d'habitude, une adresse mail est ouverte pour recevoir vos textes que je rappelle ici. Lire et écrire tout attaché. @studiozef.fr. Tout cela est agrémenté de quelques morceaux de musique pour ne pas s'endormir au son mélodieux de ma douce voix. Le principe d'un atelier d'écriture est d'inciter à la lecture. D'après Harrison, lire est la première chose à faire pour savoir écrire. Lire permet d'étendre son vocabulaire. De plus, la lecture permet de comprendre ce que veut dire « style ». Quand j'étais encore au collège, j'avais sur mes copies de Kant avéré des petits mots d'amour tels que « attention style »,« style nul », avec des notes avoisinant le zéro absolu. Mais jamais un prof nous aurait expliqué la signification de ce mot par l'exemple. Alors j'ai continué pendant des années à me demander si « style » signifiait « avoir un bon stylo » ou « une belle écriture ». À cette époque, la petite bibliothèque de la maison était remplie de gros bouquins sur la médecine, la géographie, l'histoire et des romans d'aventure vendus sous pétain, c'est-à-dire politiquement corrects et ennuyés à mourir. Donc la seule littérature qui me tombait dans les mains était San Antonio, mais sans aucune possibilité de comparaison, le style de Frédéric Dard ne m'apparaissait pas comme une évidence. Alors, dans un atelier d'écriture, on rattache le sujet présenté avec un auteur, un bouquin, on suscite l'envie de lire même si le genre ne fait pas partie de la culture des participants. Et c'est en ça qu'il y a pédagogie. Entrer dans la sphère intime des participants par la fenêtre de l'atelier, ouvrir de nouveaux horizons. Le sujet d'avril n'est pas un poisson mais un ver. Le ver géant de Dune, inventé par Frank Herbert, un écrivain américain. Il est né, Frank Herbert, le 8 octobre 1920 et il est mort le 11 février 1986 à l'âge de 65 ans. En 1946, il suit des cours d'écriture créative à l'université de Washington. Vers 1952, il est psychanalyste, Jungien, ou Jungien pour les spécialistes, et analyste. Il publie une vingtaine de nouvelles qui parlent de psychologie, des conflits mondiaux pour le pétrole. De 1960 à 1965, il se lance dans l'écriture d'un roman de science-fiction visionnaire inspiré des déserts de l'Oregon qu'il appellera Dune. Ce livre parle de l'avenir de l'homme, d'écologie, des luttes et rapports entre les lobbies, la religion, l'armée, le pouvoir politique, les sciences, de la génétique, avec clonage et mutations contrôlées. Il y a fait l'objet d'un film de David Lynch en 1984. Qui n'a pas été un grand succès commercial. Il sera suivi du Messie de Dune, les Enfants de Dune, l'Empereur Dieu de Dune, les Hérétiques de Dune et enfin la Maison des Mers. À noter qu'à la bibliothèque de Blois, seuls les trois premiers livres du cycle sont disponibles. L'épice est le produit indispensable à tout l'univers. Il est produit uniquement sur Dune. Le père de Paul Atreides reçoit Dune comme fief. La planète est occupée par les Fremens. Paul est-il le fruit d'un programme génétique des révérendes mères du Bene Gesserit ? Survivra-t-il à la guerre qui oppose son père ou Harkonnen ? Qui produit l'épice ? Voilà les sujets du premier livre de Dune. Je vais donc vous lire un passage de Dune. Dans l'obscurité de Jessica entendit crisser le sable sous les pas de ceux qui s'avançaient en même temps, qu'elle percevait les lointains cris d'oiseaux qui, avait dit Stilgar, étaient les appels des sentinelles. Les seaux de plastique furent ôtés des ouvertures et Jessica aperçut les ombres du soir qui, au dehors, glissaient sur le rocher depuis le bassin. Elle sentit le retrait du jour dans la chaleur sèche et les ombres. Bientôt, elle le savait, ses perceptions aiguisées lui permettraient, comme les Fremen, de déceler le plus infime changement d'humidité dans l'air. Elle se souvint avec quelle hâte ils avaient ajusté leur distille au moment de l'ouverture. Loin dans la caverne, une voix entonna « Ima trava okolo, i korenka okolo ». Elle traduisit « Voici les cendres et voici les racines ». La cérémonie funèbre commençait. Le regard de Jessica se posa sur le couchant, sur les strates de couleurs déployées dans le ciel. Les ombres qui, là-bas, s'étendaient sur les dunes et les rochers, étaient celles de la nuit. Pourtant, la chaleur ne mourait pas. La chaleur la forçait à penser à l'eau et à ces gens qui avaient été entraînés à n'avoir soif qu'à des moments précis. La soif. Elle se souvenait des vagues sous le clair de lune de Caladan, de la robe blanche de l'écume sur les récifs, du vent chargé d'embrun. À présent, la brise qui venait du désert desséchait la peau nue de ses joues et de son menton. Les nouveaux embouts dans ses narines l'irritaient et elle avait une conscience aiguë de la présence du tube qui plongeait dans le distille et récupérait l'humidité de sa respiration. Le distille lui-même était une étuve. « Votre vêtement sera plus confortable lorsque votre corps aura moins d'eau, » avait dit Stilgar. Elle savait qu'il avait raison, mais elle ne se sentait pas pour autant à l'aise dans ce moment précis. Inconsciemment, l'eau la préoccupait et cela pesait sur son esprit. « Non, » corrigea-t-elle aussitôt, « c'est l'humidité qui me préoccupe. » Et c'était là un problème plus profond et plus subtil. Elle entendit des pas qui s'approchaient et se retourna pour voir Paul surgir des profondeurs de la caverne, suivi de Shani. « Autre chose encore, » songea-t-elle, il faut que je l'avertisse quant à leur femme. Ce n'est pas parmi elles qu'il peut trouver une épouse digne d'un duc. Une concubine, oui, mais pas une épouse. Puis elle pensa à elle-même. M'a-t-il gagné à ses projets ? Elle avait été si bien conditionnée. Je peux penser aux nécessités matrimoniales de la royauté sans évoquer mon propre concubinage. Pourtant, j'étais plus qu'une concubine. Mère, Paul était devant elle, Chani à ses côtés. Mère, savez-vous ce qu'ils font là-bas ? Elle leva les yeux et rencontra son regard sombre sous le capuchon. Je crois le savoir. Chani m'a montré, parce que je suis censé assister à cela et donner mon accord pour la mesure de l'eau. Jessica regarda Chani. Il récupère l'eau de Jamis, dit Chani. Sa voix aiguë était rendue nasillarde par les embouts de ses narines. Telle était la règle. La chair d'un homme lui appartient, mais son eau revient à sa tribu, sauf dans le combat. « Ils disent que cette eau est à moi, » dit Paul. Jessica se demanda pourquoi cela éveillait soudain sa méfiance. « L'eau du combat appartient au vainqueur, » reprit Chani, « parce qu'il faut se battre sans distiller. Le vainqueur a le droit de récupérer l'eau qu'il a perdue durant le combat. « Je ne veux pas de cette eau, » grommela Paul. Il sentait qu'il appartenait à de multiples images qui se déplaçaient simultanément de façon heurtée, déconcertante pour la vision intérieure. Il n'était pas sûr de ce qu'il ferait, mais il avait une certitude. Il ne voulait pas de l'eau distillée à partir du corps de Jamis. « Mais, dit Chani, c'est de l'eau !» Jessica s'émerveilla du ton qu'elle avait employé pour prononcer ce simple mot « eau ». Et il y avait mis tant de signification. Il existait un axiome Bene Gesserit qui disait « La survie est la capacité de nager en des eaux étranges » et Jessica songea en ces eaux étranges. « Paul et moi, nous devons trouver les courants favorables si nous voulons survivre. « Accepte cette eau, » dit-elle. Il reconnut ce ton. Elle l'avait déjà employé avec son père lorsqu'il lui avait dit d'accepter la somme importante qu'on lui offrait en échange de sa participation à une entreprise risquée, simplement parce que l'argent maintenait la puissance des Atrides. Sur Arrakis, l'eau était de l'argent. Elle l'avait compris. Paul demeura silencieux. Il savait qu'il ferait ce qu'elle lui avait dit de faire, non parce que c'était un ordre, mais parce que le ton qu'elle avait employé le forçait à réfléchir. Refuser l'eau serait refuser les pratiques des Fremen. Paul est devenu l'empereur Muad'Dib. Il a gagné la guerre avec les Fremens, il est prescient, ce qui lui permet de voir tous les futurs possibles, mais tous sont un désastre. Que faudra-t-il qu'il fasse pour sauver l'humanité? Voici donc un passage du Messie de Dune. Prisonnier de la transe de l'oracle, dérivant dans les profondeurs de l'épice, Paul vit la lune se transformer en une sphère, se déformer, rouler, basculer, avec un sifflement terrible, le sifflement d'une étoile plongeant dans l'océan. La lune tombait, comme une balle claire lancée par un enfant, disparue. Elle n'était plus là, il le comprit soudain, il n'y avait plus de lune. La terre frémit comme un animal en mue. La terreur vint. Paul se redressa sur sa couche, les yeux écarquillés. Une partie de son esprit regardait encore vers l'intérieur. Celle qui voyait la réalité reconnaissait la grille de Plasmeld de sa chambre, savait qu'il reposait auprès d'un de ces abîmes de pierre de la citadelle. Au fond de lui, la lune continuait de tomber. « Dehors, dehors !» La grille dominait Arrakine, flamboyant dans la lumière du midi. Là où tombait la lune, régnait une nuit épaisse. Des germes de parfum montaient d'un jardin en terrasse, mais ils ne parvenaient pas à repousser cette lune, qui tombait toujours. Paul se leva. Ses pieds nus touchèrent le sol froid et lisse. Il se pencha et regarda vers la cité sous le soleil, découvrant l'arche gracieuse d'une passerelle de platine et d'or, ocellée de joyaux venus de la lointaine Cédone. Plus loin, la cité commençait, auprès d'un bassin et d'une fontaine. Sur l'eau, il y avait des fleurs. En se penchant un peu plus, Paul le savait, il pourrait découvrir des corolles rouges comme du sang, flottant sur la nappe d'émeraude. Il essayait de s'accrocher à la réalité, mais il ne pouvait s'évader de l'emprise de l'épice. Cette lune anéantie, quelle terrible vision! La vision suggérait une perte monstrueuse de la sécurité individuelle. Peut-être avait-il entrevu la chute de sa civilisation, peut-être était-ce par ses actes que cette lune avait été déséquilibrée. Une lune déchue. Il avait absorbé une dose massive d'essence d'épices pour pénétrer la nuée de vase soulevée par le tarot, et il n'avait découvert que cette lune qui tombait, cette solution qu'il connaissait depuis le début, mettre un terme au djihad, éteindre le volcan, le déchaînement de la boucherie, se désavouer, abdiquer. Les senteurs du jardin terrasse lui rappelaient Chani. Il eut soudain envie d'être entre ses bras, dans l'oubli de sa douceur, mais Chani elle-même ne pouvait faire disparaître la vision. Que dirait-elle s'il venait à elle maintenant, avec en lui cette mort particulière, sachant que la fin était inéluctable? Pourquoi ne pas choisir une mort aristocratique? Pourquoi ne pas conclure l'existence par un grand geste secret qui disperserait toutes ces années qui auraient pu être? Choisir de mourir avant d'atteindre l'épuisement de sa volonté de puissance, n'était-ce pas aristocratique? Paul s'avança sur le balcon et leva les yeux vers les vrilles et les fleurs du jardin. Il avait la bouche sèche, comme au terme d'une longue marche dans le désert. Le sable vient à manquer, puisque Dune devient un jardin. Les vers sont rares, et l'épice encore plus. L'Empire risque de basculer dans le cauchemar. Un passage des enfants de Dune. Leto abandonna le souvenir de cette nuit, et de la fatigue si douce de leur marche dans le sable. Il partageait les craintes de Stilgar sous le soleil levant. Le noir de la nuit, avec son silence, était une seule et simple chose, même lorsque rôdaient les terreurs en suspens. La lumière, elle, pouvait être trop de choses. Les peurs de la nuit avaient leur odeur, le bruit des choses rampantes. La nuit avait ses dimensions et tout y était amplifié. Les cornes étaient plus acérées, les lames plus aiguisées. Mais les terreurs du jour pouvaient être pires. Stilgar s'éclaircit la gorge et Leto déclara sans se retourner « J'ai un problème grave, Stil. » Je m'en doutais. La voix de Stilgar était profonde et tendue. L'enfant avait eu des intonations de son père, de façon troublante. Il y avait là une trace de la magie interdite, et la répulsion était apparue en Stilgar. Les Fremen connaissaient les terreurs de la possession. Ceux qui étaient possédés étaient de plein droit mis à mort, et leur eau répandue sur le sable afin de ne pas contaminer la citerne tribale. Les morts devaient rester morts. Un enfant pouvait porter l'immortalité, mais il n'avait en aucune façon le droit d'assurer une forme dépassée. Mon problème, reprit Leto, c'est que mon père a laissé tant de choses inachevées, tout spécialement au centre de nos vies. L'Empire ne peut continuer ainsi, Steele, sans que la vie humaine ait un centre véritable. Je parle de la vie, Steele. Me comprends-tu? De la vie, non de la mort. Votre père, une fois, m'a parlé en ce sens, alors qu'il était troublé par une vision. Leto fut tenté d'échapper à cette interrogation et à cette peur par une réponse désinvolte. En prenant conscience de sa fin, il faillit suggérer qu'ils interrompent leur jeûne. Ils avaient mangé la veille à midi et Leto avait insisté pour qu'ils jeûnent toute la nuit. Mais c'est une autre faim qui le poussait à présent. Le mal de ma vie est le mal de ce lieu, songea-t-il. Pas de création préliminaire. Je vais toujours en arrière, toujours plus loin jusqu'à ce que les distances s'estompent. Je ne peux voir la chaîne de Ambaya. Je ne peux retrouver le lieu original de l'épreuve. Il n'existe aucun substitut de la préscience, dit-il. Peut-être devrais-je tenter l'épice pour être détruit comme votre père. C'est un dilemme. Votre père m'a confié une fois qu'une connaissance trop parfaite de l'avenir équivalait à être prisonnier de cet avenir, sans la moindre possibilité de changement. C'est le paradoxe qui est notre problème. La préscience est une chose puissante et subtile. L'avenir, c'est ce qui commence maintenant. Être voyant au pays des aveugles, cela comporte bien des risques. Si l'on essaie d'interpréter ce que l'on voit pour le bénéfice des aveugles, on a tendance à oublier que les aveugles, par leur cécité même, sont animés d'un mouvement inhérent. Ils sont comme de monstrueuses machines lancées sur des trajectoires bien définies, avec leur vitesse, leur fixation propre. Les aveugles me font peur, Steele. Ils peuvent si aisément broyer ce qui se trouve sur leur chemin. Stilgar contemplait le désert. L'aube de Cray était devenue l'acier du jour. « Pourquoi êtes-vous venu ici » demanda-t-il. « Parce que je voulais que tu vois l'endroit où il se peut que je meure. » Un des enfants de Dune, Leto, a accepté pour protéger l'avenir une terrible transformation physique. Il est devenu un ver à face et conscience humaine. Il est Empereur Dieu de Dune. Un passage de l'Empereur Dieu de Dune. Je suis Duncan, maître d'armes des Atreides. Tandis qu'il attendait dans la petite pièce à la lumière jaune, il se raccrochait à ce souvenir. Je suis mort en défendant Paul et sa mère dans un siège enterré dans les sables de Dune. On m'a ramené sur cette planète, mais Dune n'existe plus. Elle n'est maintenant qu'Arrakis. L'histoire tronquée que les Tlélaxu avait fourni, mais il n'y croyait pas. Plus de 3500 ans, qui pouvait croire que sa chair existait au bout d'un temps pareil? Mais avec les Tlélaxu, rien n'était impossible. Il était du reste obligé de faire confiance à ses propres sens. « Il y en a eu beaucoup d'autres avant toi ?» lui avaient dit ses instructeurs. « Combien ?»« Le seigneur Leto se chargera de te renseigner. »« Le seigneur Leto ?» D'après l'histoire des Tlélaxu, ce seigneur Leto aurait été Leto II, petit-fils de Leto et d'Idao, que Idao avait servi avec une dévotion fanatique. Mais le Leto II en question aurait subi, toujours d'après le livre d'histoire, une métamorphose si étrange et complexe que Idao désespérait d'y comprendre quelque chose. Comment un être humain pouvait-il se transformer lentement en ver des sables? Comment une créature pensante pouvait-elle vivre plus de 3000 ans? Même dans ses plus folles projections, jamais l'épice gériatrique n'avait laissé espérer que l'on atteindrait un jour une telle durée de vie. Leto II, empereur, dieu, on ne pouvait pas croire ce livre d'histoire Tlélaxi. Idaho avait le souvenir d'un enfant étrange. Des jumeaux en réalité, Leto et Gamima, les enfants de Paul et de Shani, qui étaient mortes en couche. Le livre d'histoire racontait que Ganima était morte au terme d'une vie relativement normale, mais que l'empereur dieu Leto avait continué d'exister indéfiniment. « C'est un tyran, » avaient dit les instructeurs d'Idaho. « Il nous a ordonné de te créer dans nos cuves Aslog et de te livrer à lui. Nous ignorons ce qu'est devenu ton prédécesseur. Et voilà pourquoi je suis ici. » De nouveau, Idaho laissait errer son regard sur les murs et le plafond nu. Un faible bruit de voix attira son attention. Il se tourna vers la porte. Une voix était étouffée, mais au moins l'une d'entre elles semblait féminine. Les femmes de la garde impériale. La porte s'ouvrit vers l'intérieur sur des gonds silencieux. Deux femmes entrèrent. La première chose qu'il remarqua fut que l'une des deux portait un masque, un capuchon ciboire d'un noir informe qui absorbait la lumière. Il savait qu'elle le voyait clairement à travers ce masque, mais ses traits à elle ne pouvaient être révélés, même par les moyens d'observation les plus perfectionnés. La présence de ce capuchon noir indiquait en tout cas que les Ixiens ou leurs successeurs étaient toujours en activité au sein de l'Imperium. Les deux femmes étaient vêtues d'un uniforme d'une seule pièce d'un bleu intense. Sur la poitrine, du côté gauche, un galon rouge représentait le faucon des Atreides. Idaho continua de les observer, tandis qu'elle refermait la porte pour lui faire face. Celle qui était masquée avait un corps massif et puissant. Elle se déplaçait avec l'assurance trompeuse des fanatiques professionnels du muscle. L'autre femme était mince et gracieuse. Ses yeux en amande éclairaient un visage au trait anguleux, aristocratique. Idaho avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais le souvenir était insaisissable. Elles portaient toutes les deux un poignard aiguille dans un fourreau fixé sous la hanche. Quelque chose dans leur maintien disait à Idaho qu'elle devait être experte dans le maniement de ce genre d'armes. La plus mince parla la première. « Je m'appelle Lully, mon capitaine. Permettez-moi d'être la première à vous appeler ainsi. Ma compagne doit demeurer anonyme. Notre seigneur Leto en a ordonné ainsi. Vous pouvez vous servir du nom d'Amika quand vous vous adressez à elle. » « Capitaine ? » demanda Leto. « Notre seigneur Leto souhaite que vous commandiez sa garde impériale, » expliqua lui. « Vraiment ? Allons discuter de la chose avec lui. » « Oh non !» protesta lui. Visiblement choqué. « Le seigneur Leto vous convoquera en temps utile. Pour le moment, il souhaite que nous assurions votre confort et votre bonheur. Et il faut que j'obéisse ?» Pour toute réponse, Lully secoua la tête d'un air perplexe. « Suis-je donc un esclave ?» reprit Idaho. « Leto II est mort et le chaos a dispersé l'humanité tout en la conservant. Les révérends mères apprennent qu'il existe sur Rakis, l'ex-dune, une jeune fille qui commande au ver géant. Un passage des hérétiques de Dune. Si l'auteur manifeste est identifié, demanda Myrla, que se passera-t-il? Plusieurs conseillers hochèrent la tête. Waff les repéra. Il faudrait s'appliquer à les convaincre. Il est dangereux de porter le nom des Atrides à notre époque, fit-il remarquer. Sauf sur Gamu, peut-être, lui dit Myrla. Quant au nom des Atreides, il figure en tête de ce document. C'est drôle, songea Waff. Le représentant du chaume, à la conférence Powinda, d'où il revenait, lui avait fait la même réflexion. Cependant, la plupart des membres du chaume étaient des athées, pour qui toute religion était suspecte, et il ne faisait aucun doute que les Atreides avaient représenté une force religieuse importante. Les inquiétudes du chaume avait été presque palpable. Il exposa à ses conseillers la teneur de ses réflexions. Ce dégénéré, un croyant avait raison, insista Myrla. Ce document a quelque chose d'insidieux. Il faudra que je m'occupe de Myrla, songea Waff. Ouvrant le manifeste qui était sur ses genoux, il lut la première ligne à haute voix. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Cela vient droit de la Bible catholique d'Orange, fit Mirla. À nouveau, il y eut quelques hochements de tête gênés. Waff montra la pointe de ses canines en un bref sourire. Il suggérait peut-être que certains parmi les Powinda soupçonnent l'existence du charia et des Marsken. Cela faisait du bien de pouvoir prononcer ouvertement de telles paroles, en rappelant au passage à son auditoire qu'il n'y avait qu'ici, dans le secret de cette assemblée, que les vieux mots et le vieux langage étaient préservés sans changement. Mais Mirla, ou bien l'un des autres, avait-il peur que de simples mots atréides sèment la subversion dans le charia? Il posa également cette question et vit les fronts se plisser. L'un d'entre vous, demanda-t-il, croirait-il par hasard qu'il existe un seul Powinda capable d'utiliser le langage de Dieu? Qu'il médite un peu cela. Tous ceux qui étaient ici s'étaient réveillés maintes fois dans la chair d'Angola. Il y avait dans cette assemblée une unité physique à laquelle peu de peuples pouvaient se prétendre. Mirla lui-même avait vu le prophète de ses propres yeux. Skital avait parlé à Moabdid, ayant appris à faire revivre la chair et à restaurer la mémoire. Ils avaient condensé ces pouvoirs entre les mains d'un gouvernement unique dont les intentions étaient strictement limitées de peur qu'elles ne soient requises de partout. Seules les sorcières avaient à leur disposition un réservoir d'expériences analogues dans lequel elles pouvaient puiser à volonté. Mais elles ne le faisaient qu'avec la plus extrême prudence, terrifiées qu'elles étaient à l'idée de produire à nouveau Kisra Aderak. Waff exposa tout cela à ses conseillers et conclut en disant « Le moment d'agir est venu ». Voyant que personne n'exprimait son désaccord, il ajouta « Ce manifeste est l'œuvre d'un seul auteur. Toutes les analyses concordent sur ce point, Mirla. Il ne fait aucun doute qu'il a été écrit par une seule personne et que cette personne possède véritablement le sang des Atreides », approuva Mirla. « Tous ont affirmé la même chose au congrès Powinda », fit Waff. Même un navigateur de la guilde du troisième degré a accepté cette conclusion. Mais cet auteur unique a produit quelque chose qui déchaîne des violentes réactions dans des sphères très diverses, objecta Mirla. Avons-nous jamais douté de la capacité des Atreides à semer la perturbation ? Demanda Waff. Quand les Powinda m'ont montré ce document, j'ai tout de suite compris que Dieu nous avait envoyé un signe. Les sorcières nient toujours être à l'origine du manifeste, demanda Torg le jeune. Comme il est perceptif, songea Waff avant de lui répondre. Toutes les religions Powinda sont remises en question dans ce document. Toutes les fois, sauf la nôtre, sont expédiées dans les limbes. C'est précisément le problème, lança Mirla. Mais nous sommes les seuls à le savoir, poursuivit Waff. Qui d'autre soupçonne seule l'existence du charia? La guilde, fit Mirla. Elle n'en a jamais parlé à personne, et elle ne le fera jamais. Elle sait trop bien quelle serait notre réaction. Il ouvrit de nouveau le manifeste posé sur ses genoux, et en lut un passage à haute voix. Des forces que nous ne comprenons pas imprègnent notre univers. Nous apercevons l'ombre de ces forces projetées sur un écran accessible à nos sens, mais il ne nous est pas permis de saisir leur essence. Celui qui a écrit cela est au courant du charia, grommela Mirla. Waff poursuivit sa lecture comme s'il n'avait pas eu d'interruption. La compréhension exige des mots, mais certaines choses ne peuvent être réduites à de simples mots. L'expérience de certaines choses ne peut être faite qu'en absence des mots, comme s'il tenait à la main quelques reliques sacrées. Waff reposa le document sur ses genoux, d'une voix si basse que la plupart de ses auditeurs durent se pencher en avant et que certains portèrent la main en cornée autour d'une oreille. Il ajouta « Autrement dit, notre univers est magique. Autrement dit, toutes les formes arbitraires sont transitoires et sujettes à des transformations magiques. La science nous a conduits à cette interprétation comme si elle nous plaçait sur des rails dont nous ne pouvons nous écarter. » Il laissa ses paroles foisonner un instant, puis reprit « Aucun prêtre rakien du dieu fractionné, ni aucun autre charlatan Powinda ne pourrait accepter cela. » Nous seuls savons que ces paroles sont vraies parce que notre Dieu est un Dieu magique dont nous parlons le langage. On nous accusera peut-être d'être les auteurs, déclara Mirla. Mais à peine avait-il parlé qu'il secouait vivement la tête de droite à gauche. Non, ce n'est pas cela. Je vois ce que vous voulez dire. Dune est détruite. Le chaos reprend de plus belle. Seuls les Bene Gesserit restent organisés. Auront-elles un plan pour retrouver la paix dans la galaxie? Voici un passage de la Maison des Mères. La cave roulante où se trouvait Lucie fut poussée jusqu'à l'endroit où trônait la très honorée matriarche. C'était une cage tubulaire, une cage à l'intérieur d'une cage. Lucie était maintenue par une résille de chigavrille au centre de la cage. « Je suis la très honorée matriarche !» lui dit la femme assise sur l'énorme trône noir. Une toute petite femme en collant rouge et or, nota Lucie. Cette cage est destinée à vous protéger pour le cas où vous tenteriez de faire usage de la voix. Nous sommes immunisés. Notre immunité se manifeste sous la forme d'un réflexe, celui de tuer. Un certain nombre des vôtres sont déjà mortes de cette manière. Nous connaissons la voix et nous l'utilisons. Ne l'oubliez pas quand je vous ferai sortir de cette cage. Elle fit un signe impatient au serviteur qui avait apporté la cage. « Laissez-nous, laissez-nous !» Lucie fit du regard le tour de la salle, sans fenêtre, presque carrée, éclairée par quelques brilleurs dans le registre argenté. Les murs étaient d'un vert acidulé. Le lieu typique pour un interrogatoire. Ce devait être un étage assez élevé. On avait transformé sa cage, peu après le lever du soleil, par l'intermédiaire d'un tube à grappe. Un panneau, derrière la très honorée matriarche, s'écarta avec un bruit sec et une cage plus petite glissa dans la salle, mue par un mécanisme invisible. Elle était carrée à la base et contenait debout ce que Lucie prit au début pour un homme entièrement nu, jusqu'à ce que la créature se tournât vers elle. Un futard. Il avait un visage démesurément large, avec des canines pointues. « Frottez le dos !» dit le futard. « Oui, mon chéri, je te frotterai le dos plus tard. »« Moi, faim !» dit le futard, en regardant Lucie d'un air farouche. « Plus tard, mon chéri !» Le futard continuait d'observer Lucie. « Trop belle l'air !» demanda-t-il. « Mais non, tu vois bien qu'elle n'est pas une belle l'air !» le gronda la très honorée. « Moi, faim !» insista le futard. « J'ai dit plus tard. Pour l'instant, reste tranquille et fais-moi un gentil ronron !» Le futard s'accroupit docilement dans sa cage et un grondement sourd sortit bientôt du fond de sa gorge. « Ne sont-ils pas adorables quand ils ronronnent ainsi ?» demanda la très honorée matriarche sans attendre, apparemment, à recevoir de réponse. La présence de ce futard intriguait Lucie. Ces créatures étaient censées traquer et détruire les honorés matriarches. Il est vrai qu'il était en cage. « Où l'avez-vous capturé ?» demanda Lucie. « Sur Gamu. » Elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle venait de révéler. « Nous sommes bien sur jonction, » se dit Lucie. Il lui avait semblé, en effet, reconnaître les abords de la planète, quand on l'y avait transporté la veille par la navette. Le futard avait cessé de ronronner. « Faim !» gronda-t-il. Lucie aussi aurait bien aimé quelque chose à manger. On ne lui avait rien donné depuis 3 jours, et elle était forcée de neutraliser les tiraillements de son estomac. Il y avait dans sa cage un joli litre d'eau, d'où elle tirait de temps à autre une ou deux gorgées, mais il n'en restait presque plus. Quand elle avait réclamé à manger, les serviteurs qui l'avaient amenée ici s'étaient esclaffés en disant « Les futards préfèrent la viande maigre ». C'était l'absence de mélange qui la préoccupait le plus. Elle avait commencé à ressentir ce matin les premiers symptômes de manque. Il faudra bientôt que je mette fin à mes jours. La horde de Lampada la suppliait d'attendre encore un peu. « Soyez courageux si cette révérende mère sauvage nous laissait tomber. » La reine a régné. C'est ainsi qu'Odrad a surnommé cette femme, se disait Lucie en regardant la très honorée matriarche. Thank you. Nous voici arrivés à la consigne d'écriture. Vous êtes téléporté dans le futur. Décrivez le monde que vous y découvrez. Y resterez-vous? Aurez-vous hâte de revenir? Ce sera votre choix et votre chute. Toujours sur lire et écrire tout attaché @studiosef.fr. Je vous souhaite de noircir les pages blanches en attendant que la pluie cesse. On se retrouve en mai, deuxième et quatrième lundi, de 14h à 15h, sur les ondes de Studiosef 91.1 en FM.